Cette émission vous est présentée en rediffusion.
Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro et qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé et vous écoutez Canal M. Le rôle de l'alimentation, de plus en plus, on en entend parler, ça a plusieurs impacts. Et les dernières études disent que ça aurait autant d'impact sur notre santé mentale que sur notre santé physique. Et c'est, ça vient d'une étude là, très, très récente de Sun Project qui a suivi plus de 15 000 participants pendant 8 ans et demi et qui démontre que l'adhérence à trois types de diètes diminue de 16 à 40 % les risques de dépression. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut que je mange, moi, pour être de bonne humeur? Ben, rien d'étonnant, ces trois diètes-là proposent un apport très important en fruits, en céréales, en légumes et en noix, et tente de s'éloigner le plus possible du sel et des sucres concentrés. Donc, rien de nouveau au soleil. Ce qu'il y a de nouveau, c'est un livre de Maryse Charron, elle qui est nutritionniste et diététiste, et elle sera là en deuxième partie d'émission pour nous présenter ce livre qui s'intitule « Super aliments, bonheur ». On en apprendra davantage, donc, pour être heureux et bien manger. Et puis d'ailleurs, vous parlez de cette émission dimanche dernier sur le plateau de Tout le monde en parle. Si vous l'avez écouté, tout comme moi, vous avez entendu le philosophe et essayiste Normand Baillargeon qui dénonçait les coupes en éducation, disant que l'école, ici, était un vecteur de l'égalité des chances. Les coupes annoncées, on le sait ou on s'en doute, c'est en argent, c'est en service, c'est en professionnel. Et souvent, les élèves qui en écopent davantage, c'est des élèves qui ont des besoins particuliers, troubles d'apprentissage, par exemple, ou qui sont issus de milieux un petit peu plus défavorisés. L'organisme montréalais Déclic aide à la scolarisation des jeunes en grande difficulté. Et on en parle à l'instant avec Sonia Lombard, directrice générale et intervenante à l'organisme Déclic. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Merci d'être là. Sur dimanche dernier, sur le plateau de Tout le monde en parle, Normand Baillargeon disait aussi, et je pense que ça a résonné assez fort dans notre imagination collective, c'est le décrochage. Il disait plutôt, pardonnez-moi, que si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et moi, je me disais, oui, peut-être que en effet, l'éducation coûte cher, mais le décrochage aussi, et peut-être à long terme, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, et on ne peut pas se priver comme société de la part de ces futurs citoyens, de ces jeunes-là. Et Déclic, je pense, est la preuve que l'insertion scolaire, ça a de réels effets et que c'est possible, en fait.
Absolument. En fait, ça fait 22 ans qu'on travaille avec les jeunes adultes en grande difficulté. Notre mission, c'est justement de leur donner une deuxième chance, qu'ils puissent retourner à l'école après un décrochage qui est souvent assez long. Les jeunes en grande difficulté, c'est des jeunes qui ont vécu différentes problématiques. Ils peuvent, comme vous le disiez, être issus de milieux socio-économiques plus défavorisés, mais parfois c'est qu'ils ont vécu dans un milieu où ça a été dysfonctionnel pendant un certain temps. Par exemple, si on est dans une famille très heureuse, mais que soudainement arrive un divorce, ça va avoir un impact. Et on a une mère, on est seul avec une mère dépressive, l'école, finalement, va prendre un petit peu, ça va devenir difficile. Si on a vécu des chocs traumatiques graves, parce que nous, nos histoires, ça passe de l'histoire triste à l'histoire d'horreur, les jeunes qui viennent chez Déclic. Donc, si on a vécu des traumatismes graves, ça va avoir un impact justement sur les troubles de santé mentale. Les jeunes en grande difficulté, c'est des jeunes au profil très, très complexe Et ils ont beau avoir un profil très, très complexe. À la base, ils ont un potentiel très élevé.
Ouais.
Et c'est absolument, comme vous le disiez, aberrant de se passer de cette force-là, de ces jeunes-là. Et en les laissant de côté, en ne s'en occupant pas, bien, c'est ce qu'on fait.
Vous dites, Sonia, que les histoires qui vous sont présentées de par ces jeunes chez Déclic, ça passe d'histoires tristes à d'histoires d'horreur. Mais j'imagine qu'il y a des histoires heureuses aussi.
Mais à 80 %, ouais. À la fin d'un parcours chez Déclic, 80 % des jeunes vont justement s'en sortir. Ça va prendre, je vous dis, 5 ans. C'est parce que c'est une moyenne de cheminement. Mais, tu sais, je peux vous donner un exemple d'une de nos jeunes qui, quand elle est arrivée, bon, elle travaillait dans le milieu du sexe. Elle avait un secondaire 3. Plus de parents. Elle consommait énormément aussi parce que éventuellement, c'est sûr que c'est bon d'oublier tout ce qui se passe autour de nous. Elle est arrivée et le travail s'est fait par palier, c'est-à-dire qu'on travaille sur la stabilisation toujours. À la base, on va s'assurer que la personne répond à ses besoins de base, se nourrir, se loger, ouais. Se vêtir. Ça a l'air bête, se vêtir, là, mais on vit au Québec, hein? Donc l'hiver, des jeunes pas de bottes, ou des jeunes avec des trous en dessous des bottes, ça existe. Donc, ces besoins de base-là, on y répond à la base en l'aidant justement à s'organiser. Le travail est toujours aussi
de leur rendre leur autonomie.
Exactement,
ouais.
Empowerment.
Ouais.
Donc, on va travailler avec eux pour qu'ils stabilisent leur situation. Et pendant ce temps-là, on retourne à l'école. Là, ils reviennent toutes les mauvaises histoires là, qui ont pu arriver le temps qui était à l'école secondaire.
Ouais.
Donc, tout ce qui a été difficile pour eux va revenir. Et avec quelqu'un, justement, qui l'accompagne de façon intensive, chez Déclic, c'est ce qu'on fait. Il y a toujours un intervenant psychosocial
qui
est là pour aider quand un jeune a besoin de parler avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là. Et les liens sont très importants. Les liens se développent avec les intervenants et ça crée comme une espèce de grande famille des clés.
Mais Sonia, vous commencez à recevoir ces jeunes-là à 16 ans.
Oui.
Donc, avant, on se doute qu'ils ont vécu des histoires difficiles
oui.
en milieu scolaire. Comment ils arrivent chez vous? Est-ce que c'est le directeur, l'enseignant, l'orthopédagogue qui dit « Bon, cet enfant-là a besoin de vos services » ou ils arrivent chez vous de par la famille, peut-être?
C'est un peu de partout.
OK.
En fait, on a effectivement des liens avec des écoles secondaires. C'est beaucoup des individus. Au niveau des professionnels qui vont nous référer, c'est qu'ils vont nous avoir connus à travers l'organisation ou bien à travers n'importe quelle rencontre et ils vont nous référer un premier jeune. Puis après ça, ben c'est une porte. Une fois qu'ils ont référé un jeune, absolument, ça n'arrête jamais.
Ouais.
Les centres jeunesse également. Quand ils arrivent en fin de parcours, ils arrivent près de 18 ans, c'est toujours très, très, très difficile.
Parce que 16 ans, c'est souvent associé à la fin du secondaire.
Oui.
Ouais.
Oui. Mais comme ils ont en moyenne un secondaire 2, 16 ans, c'est associé au fait qu'ils sont en secondaire 2 et l'école secondaire régulière ne peut pas s'assurer de le diplômer avant l'âge de 18 ans. Donc, ils vont se voir offrir la porte vers le centre de formation générale aux adultes.
Ouais. Est-ce que vos intervenants, Sonia, et ça, je veux que ça soit bien clair pour moi, accompagnent le jeune adulte en milieu scolaire ou plutôt les interventions se font chez vous, l'accompagnement?
Les interventions se font réellement chez Déclic.
D'accord.
Et on a justement, en fait, du soutien scolaire. Les interventions vont se faire de façon intensive. Parfois, c'est du counseling de groupe. Par exemple, on a eu un programme qui s'appelait Focus. C'était 20 semaines à 30 heures par semaine, ce qui permettait justement de travailler sur la connaissance de soi, la gestion de la colère, les habiletés de communication, les compétences de base dont ils ont besoin, tant pour être capables de retourner à l'école que d'insérer le marché du travail. Donc, ça fait partie du genre de service qu'on offre. Et en établissant comme ça, justement, un lien avec les intervenants, ces jeunes-là, quand ils vont à l'école, nous, on loge dans un centre de formation générale aux adultes. Donc, les jeunes qui viennent chez Déclic, généralement, vont aller s'inscrire à ce centre-là, comme ça. Quand ça ne va pas, plutôt que de prendre leur clic et leur claque et de partir pour de bon, bien, ils s'en viennent chez Déclic.
Ouais.
Ils viennent, justement, se calmer et vont reprendre tout de suite à ce moment-là. Là.
Mais Déclic, en même temps, c'est un générateur de réussite personnelle parce que ces jeunes-là, quand ils arrivent chez vous à 16, 17, 18 ans, là, ce sont juste des échecs qu'ils ont vécu
tout à
avant.
Fait. Tout à fait.
L'école est associée à ça pour eux.
Absolument. Et justement, on a des beaux exemples de jeunes qui, une fois qui sont passés un petit peu avec... en intervention auprès de nous et qui ont eu l'appui scolaire d'orthopédagogues parce qu'on travaille avec des orthopédagogues, ils ont eu des examens où ils ont eu des notes de 90.
Ouais. Donc, le potentiel, c'est pas ça qui est déficient.
Non,
hein?
non. C'est pas le potentiel, c'est parfois des troubles d'apprentissage qui font que, bon, mais on a un trouble d'apprentissage, c'est pas parce qu'on le sait, là, il y a pas d'impact sur... le niveau intellectuel, on a une difficulté à traiter l'information, on la traite différemment de la majorité, tout simplement. Alors, il faut être capable d'offrir les services qui sont adaptés à ces jeunes-là.
C'est une autre façon d'apprendre.
Oui.
Mais là, je vous écoute, et je le disais tout à l'heure en introduction, il y a des coupes dans le secteur de l'éducation qui s'en viennent annoncées par le ministre Blais, et ça aura des impacts, notamment sur ces jeunes qui ont des difficultés. Est-ce que vous vous attendez, Sonia Lombard, à ce que ça cogne davantage chez vous?
Absolument. En fait, c'est triste, là, mais les jeunes qui ont besoin, en fait, de services adaptés, c'est pas une lubie. Normalement, c'est aussi... c'est une nécessité et c'est une obligation de fournir les services à tous les jeunes.
Mm-hmm.
Tous les jeunes devraient avoir accès à l'éducation, peu importe ce qu'ils ont comme trouble.
Mm-hmm.
Donc, effectivement, c'est des jeunes qui vont venir cogner chez Déclic dans quelques années, mais également tous ceux qui sont au primaire actuellement et qui vont simplement vivre d'échec en échec en se disant qu'ils valent rien, qu'ils vont se détruire l'estime de soi là, à coup de d'incompréhension. Puis quand on ne comprend pas à l'école, mais qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le trouble de comportement.
Ouais.
C'est tout simplement ça.
Philippe Laprise, sur le plateau de Tout le monde en parle, et qui fait partie un petit peu de votre équipe, qui fait la promotion des clics, mais on y reviendra, humoriste. Oui. Donc, Philippe Laprise, qui disait, « Moi, j'avais un TDAH, je ne le savais pas à ce moment-là, je cultivais les échecs. Les enseignants me disaient que j'étais paresseux, j'étais, bon... » On soulignait là, chez moi, devant tout le monde, ce manque-là. À un moment donné, j'ai découvert l'impro, et c'est ça. Et il souligne aussi qu'il vient d'une famille très, très équilibrée. Ses parents ont été là pour lui. Comment on fait pour semer chez les jeunes? Comment on les réaccroche, finalement? Bon, chez Déclic, il n'y a pas d'impro, mais il y a d'autres façons, j'imagine, de stimuler l'apprentissage.
Les prétextes d'intervention sont variables, là. Mais ils fonctionnent en fonction justement des services professionnels qui sont derrière. Nous, on a la photo. On a travaillé avec justement avec la photo pour raccrocher. Mais nous, on a aussi tout ce qui est atelier de connaissance de soi.
Mm-hmm.
Et en travaillant justement à se connaître, ça c'est super important. On met en place aussi des activités d'intégration, des activités où il y a un début et une fin, et où ils réalisent quelque chose.
Ouais.
Et ça, c'est déjà une première réussite.
Ouais.
Et des réussites comme ça, on leur en fait vivre le plus possible.
Et aussi, ils sont en groupe.
Oui.
Donc, tous dans le même bateau vers cette réussite-là, l'accomplissement, l'épanouissement de soi, de dire, OK, toi, tu vis cette réalité-là, moi, j'ai vécu celle-là, mais finalement, on s'en va tous à la même place.
Oui.
Ça a un impact, ça, j'imagine?
Absolument. C'est vraiment des gens qui... des jeunes qui s'appuient mutuellement, toujours. On ne retrouve pas ce qu'on peut retrouver dans des groupes de secondaire réguliers où il y a aucune intimidation.
Il n'y a pas de compétition.
Il y a un respect qui s'installe presque automatiquement. Une fois que la glace est brisée, une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient justement respectés et aimés comme ils sont,
mm-hmm.
à partir de là, on peut leur demander n'importe quoi. On leur demande rien. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient bien.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et il y a une équipe multidisciplinaire, là, psychothérapeute, orthopédagogue.
C'est ça. En fait, on travaille avec des orthopédagogues. On a des nouveaux projets, justement, qu'on met en place, où on va travailler avec des psychologues. Et on veut aussi procéder aux évaluations neuropsychologiques
mm-hmm.
des jeunes qui présentent là, des indices de troubles d'apprentissage, mais qui n'ont pas nécessairement eu de diagnostic. Mais ça, c'est quelque chose qui coûte très, très cher.
Oui.
Donc, c'est pour ça que...
Je vous emmenais là, en fait, Sonia Lombard, parce que, bon, tout ça n'est pas gratuit. Tout comme l'éducation, on le disait tout à l'heure, oui, ça a un coût, beaucoup de retombées toutefois. Et c'est pour ça que Déclic lance une première campagne de sociofinancement qui s'appelle « Plein le sac ».
Oui.
Et ben, c'est assez original, hein? À peu près une quinzaine d'artistes, de personnalités connues qui proposent des sacs surprises, finalement.
C'est ça, exactement.
Valeur de 100 $, autant de cadeaux personnalisés. Ça va servir à payer ces spécialistes-là?
Exactement. C'est qu'en fait, c'est sûr que tout l'argent qu'on va chercher sert à la base, là, au fonctionnement de base, c'est-à-dire les jeunes qui rentrent chez Déclic, qui sont évalués. Les ressources, on a à peu près un seul poste là, au bilan, puis c'est des ressources humaines, parce que tout passe par ça. Alors, on a déjà les jeunes, mais on a aussi nos nouveaux services justement de psychothérapie et de neuropsy, là, qui sont bien importants. Et aussi, tout ce qui est soutien scolaire là, pour les jeunes qui sont en formation générale aux adultes.
Mm-hmm. Comment les jeunes peuvent contribuer à Plein le sac? Comment les gens, en
les
fait?
Les gens,
oui.
En fait, ils peuvent aller.
Les jeunes aussi, peut-être.
Les jeunes qui... Pas nos jeunes.
Non,
mais
non, bien sûr.
Les jeunes qui peuvent, donner un peu, effectivement, ils peuvent aller sur la plateforme Ulule.com et chercher Plein le sac, mais aussi, surtout, aller sur notre site web, déclic.ca.
Mm-hmm.
Et là, il y a toute l'information. C'est très facile. Ils peuvent s'acheter un sac de... Par exemple, on a Fred Pellerin, on a Philippe Laprise, justement.
Oui, voilà.
On a Éric Salvaille. Tu sais, si je prends Philippe Laprise, c'est très intéressant d'ailleurs. S'ils veulent un sac, il y a un spectacle dans le sac qui a lieu samedi.
Mm-hmm.
Alors, c'est le temps là, de les acheter, là, sinon ça va partir très rapidement.
Moi, j'ai beaucoup aimé le contenu du sac de Catherine Trudeau,
oui.
Avec plein de beaux bouquins.
Ah oui, oui.
Ça donne bien envie. Là. Ce sont de beaux cadeaux. J'imagine que ça n'a pas été difficile de convaincre ces artistes-là.
Ça a été assez rapide. En fait, on n'en voulait pas énormément. Et Rémi-Pierre Paquin,
oui? mm-hmm.
qui est notre porte-parole, a sollicité quelques-uns de ses amis. Et voilà, ça a donné 14 artistes qui se sont impliqués.
Oui, parce que pour eux, l'éducation et la réinsertion, autant scolaire que professionnelle de ces jeunes-là, étaient importantes. Ils ont compris, finalement, l'apport de ces jeunes-là, je pense, à notre société.
Absolument.
Tout comme vous, Sonia Lombard, je le rappelle, vous êtes directrice générale et intervenante à l'organisme Déclic. La campagne termine quand?
Le 26 octobre.
On vous souhaite bonne chance.
Bien, merci beaucoup.
Au plaisir.
Merci, au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Roy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes diététiste nutritionniste et là pour nous parler du soya, des bienfaits du soya. Du moins, c'est ce qu'on va tenter de départager aujourd'hui parce que je disais tout à l'heure en introduction, les opinions par rapport au soya sont multiples, souvent contradictoires et on va tenter d'y voir plus clair pour les consommateurs qui nous écoutent en ce moment. Tout d'abord, là, pour s'y retrouver lorsqu'on fait les courses, le marché, quels sont les aliments de soya traditionnels que l'on peut consommer?
Bien, le soya, hein, c'est une légumineuse qui est très versatile. On peut faire toutes sortes de choses avec elle. On peut la manger intégralement comme ça. C'est rare quand même qu'on mange la fève de soya comme on mange, par exemple, un pois chiche. Mm-hmm. La fève de soya est souvent transformée. Donc, bon, les façons extraordinaires de la manger, c'est sous forme d'edamame. Mm-hmm. On dit edamame, c'est la fève de soya fraîche. C'est une jeune fève de soya qu'on cueille avant que le soya soit mature. Donc, ça prend 3 minutes à cuire. Mm-hmm. On vend ça toujours congelé. Donc, ça, c'est une façon extrêmement naturelle de consommer soya. Il y a une autre façon extraordinaire, le tempeh, qui est la fève de soya qu'on a fait fermenter. Sinon, il y a beaucoup d'autres sous-produits comme le tofu qu'on connaît bien, dans le fond, qui se trouve à être le fromage de la boisson de soya. Donc, on prend la boisson de soya et on fait coaguler et on obtient donc le fromage de lait de soya, on pourrait dire, qui est le tofu. Donc, on a du tofu ferme, on a du tofu soyeux avec lequel on peut faire toutes sortes de mousses, de trempettes. On retrouve aussi sur le marché de plus en plus des protéines de source de soya texturées. Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose qui pourrait ressembler, par exemple, à du steak haché et qui a vraiment une texture qui est très, très, très comparable. Lorsqu'on met la protéine texturée dans une sauce à spaghetti, on a l'impression d'avoir des petits chunks de steak haché et pourtant, c'est du soya. Mais on retrouve de plus en plus des languettes, là, des gens qui veulent retrouver un équivalent de poulet. Mm-hmm. On a vraiment de plus en plus des compagnies qui tente de trouver des textures qui vont ressembler à la viande, mais qui est faite à base de soya. C'est pour moi une excellente idée qui va permettre aux gens de réduire leur consommation de viande et d'aller plus vers un aliment de source végétale.
Et une bonne source de protéines, toutefois, quand même.
Ah, ben oui, c'est sûr que, dans le fond, il faut toujours se rappeler que le soya est une légumineuse. Et les légumineuses, c'est vraiment un des prédicateurs de santé les plus importants sur la planète. C'est pas pour rien que les Japonais, les Chinois ont une santé, ou les Japonais particulièrement, on les cite souvent, là, comme à Okinawa, qui sont des grands consommateurs de soya. Et c'est une des raisons qui fait que leur santé est meilleure. Donc, les légumineuses, c'est quelque chose qu'on doit définitivement manger en plus grande quantité. D'ailleurs, là, 2015, présentement, l'ONU a déclaré que c'est l'année des sols. Et en 2016, l'ONU a déclaré que ce sera l'année des légumineuses.
Ah, vraiment?
Donc, c'est urgent. Hein? Présentement, on doit parler de la santé des sols. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut manger bio de plus possible. Mais l'année prochaine, ça va être vraiment l'année des légumineuses. Donc, il va falloir stimuler les gens à en manger plus. Et le soya est une légumineuse. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est un aliment exceptionnellement bon. Donc, il faut vraiment tout remettre ça à jour parce que là, il y a des rumeurs qui circulent, il y a une propagande contre le soya et c'est pour ça que moi, je fais beaucoup, je transmets beaucoup.
C'est pour ça que vous êtes ici, en fait.
Écoutez, il faut arranger ça, là. Il y a vraiment une propagande qui devrait pas être là.
Mais en fait, l'une des craintes liées au soya, c'est que souvent, on l'accuse d'être plein d'OGM. Donc, faudrait-il choisir notre soya, nos aliments de soya biologiques?
Bon, donc là, il faut remettre ça à jour. Les OGM, hein, la grande partie des OGM qui est produite sur la planète, c'est le maïs et le soya. Mm-hmm. Okay? Et pourquoi on fait tant de maïs et de soya sur la planète? C'est pour faire de l'élevage. La grande, grande majorité, je vous dirais peut-être 90-95% du soya modifié génétiquement de la planète sert à nourrir des animaux. On produit au-delà, on dit maintenant 55 milliards, mais on est plus proche du 60 milliards d'animaux d'élevage à chaque année qu'on produit sur la planète. Et il faut les nourrir. Normalement, ça prend à peu près 7 kilos de céréales pour faire, ou de soya, pour faire 1 kilo de viande. Fait, imaginez l'ampleur de la quantité de viande qu'on doit produire. Et c'est pour ça qu'on produit du soya modifié génétiquement. Il y a peut-être 5 % du soya que l'humain consomme directement. Alors, il faut se dire que qui consomment les OGM de la planète, le soya modifié génétiquement, c'est ceux qui consomment de la viande. Donc, il faut arrêter d'accuser les gens qui mangent du tofu. Et la plupart du temps, quand on retrouve du soya dans les magasins d'aliments naturels, c'est soit bio, hein, quand c'est bio, c'est non modifié génétiquement, et la plupart du temps aussi, ça va être peut-être pas nécessairement bio, mais ça va être certifié sans OGM. Mm-hmm. Moi, je consomme un... Il faut faire attention maintenant, on ne peut plus dire du feta de soya. Ouais. Là, c'est une imitation de feta de soya qui est faite par Unisoya. Et c'est pas bio, mais c'est écrit dessus, nous n'utilisons pas de fèves de soya bio modifiées génétiquement. Mm. Donc, qui utilise le soya modifié génétiquement? C'est les grosses multinationales qui vont prendre l'huile de soya. Parce que tout le soya qu'on utilise pour nourrir les animaux, il y a à peu près la moitié de ça qu'on va extraire l'huile. Donc, l'huile de soya que Tim Hortons, par exemple, va peut-être utiliser dans ses muffins, c'est de l'huile de soya modifiée génétiquement. Si on prend de la lécithine de soya pour faire des produits dans les grandes multinationales, c'est de la lécithine de soya modifiée génétiquement. L'huile de soya. Donc, c'est les grandes multinationales qui utilisent les sous-produits de soya modifiés génétiquement. Mm-hmm. Mais ce qu'on retrouve à l'épicerie pour les gens qui veulent améliorer leur alimentation, c'est habituellement...
C'est bon pour la santé.
C'est bon pour la santé, il n'y a pas de gêne.
Merci de nous en avoir parlé, Anne-Marie Rouen. Ça a filé à toute allure et vous étiez fort intéressante. J'amène, bien sûr, les auditeurs sur votre site www.annemarierouen.com pour en savoir davantage. Je vous remercie beaucoup. Nous n'avons pas réussi à joindre Mme Maryse Charron. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et on pourra enfin vous parler de ce livre « Super aliments, bonheur » publié chez Modus Vivendi. Ben, c'est ici qu'on se laisse. Demain, on va inclure à l'émission une toute nouvelle chronique « La santé dans le monde », une revue de presse de Miguel Doucet. On va voir ce qui se passe, les belles initiatives un petit peu partout. Et nous, on vous salue. Rendez-vous demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.